vous relis un peu le verset en question dans Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, que nous avons vu la dernière fois, de bonté, ce que nous allons voir aujourd'hui, et puis d'humilité, de douceur et de patience. Voilà donc les cinq termes que nous allons regarder davantage. La dernière fois, nous avons vu que voilà, Dieu veut nous habiller d'un vêtement précieux et de grande valeur, bien plus qu'un habit de prêt-à-porter ou de haute couture terrestre. Il s'agit bien sûr d'un vêtement spirituel que nous devons choisir de revêtir, non pas seulement de temps en temps, mais chaque jour. Et voilà donc ce matin, intéressons-nous à la bonté de Dieu, un élément fondamental du caractère de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que la bonté ? Qu'est-ce que la bonté ? La définition de Larousse nous dit « disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable, un regard plein de bonté ». Voilà, donc la bonté n'est pas simplement faire des choses gentilles de temps en temps, mais c'est vraiment un état d'être, un caractère que nous devons revêtir et vivre tous les jours, une attitude de cœur constante. Comme il est dit, c'est choisir d'agir avec bienveillance, choisir d'agir en étant généreux, en voulant pardonner aux autres, en aimant aussi. En aimant, oui. L'amour est souvent lié aussi avec la bonté. D'ailleurs, il est dit que l'amour, dans 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour est patient et il est de plein de bonté. La bonté de Dieu, c'est notre modèle parfait. Dans Psaume 34, 9, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Oui, il n'est pas seulement bon, mais il est la source de toute bonté. Et cette source de bonté, cette bonté se manifeste de plusieurs manières. D'ailleurs, il s'est manifesté dans la création, voilà, déjà dès le début de la naissance de la création. Tout ce qui est beau, ben, il nous a créé. Il a créé le monde entier, même si maintenant ça a été terni un petit peu par le péché, mais il y a toujours des bonnes choses que Dieu nous donne, nous accorde, parce qu'il est bon. Et puis, dans son amour, dans sa patience, il a été... Enfin, voilà, non, tu peux rester. Voilà. Et il reste... Voilà, il nous accorde son amour, sa patience. Il ne nous traite pas selon nos fautes, mais par grâce. Et c'est pour ça que souvent, la bonté est souvent aussi associée avec la grâce de Dieu. Et puis, voilà, il nous accorde aussi son pardon. Il offre vraiment le salut gratuitement à ceux qui viennent à lui, sincèrement et avec authenticité. Et puis, voilà, il est la source de toute bonté. Dans sa fidélité, il prend soin de nous, même quand nous sommes infidèles. C'est ce que nous avons parlé aussi ce matin pendant la première temps de présidence. Dans Matthieu 5, il est dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oui, Dieu est bon envers tous, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Donc, si nous avons vraiment un Père céleste si bon, pourquoi ne serions pas bons aussi à notre retour? C'est-à-dire, ce serait bien quand même de réfléchir, maintenant que nous avons reçu toutes ces bontés de la part de Dieu, est-ce que nous ne devrions pas aussi agir de telle manière envers mon prochain? Puis on peut encore réfléchir sur la bonté de Dieu envers nous, dans son plan. Voilà, dans Éphésiens 2, 7, il est dit que afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Je vous avais dit que souvent la bonté est liée aussi avec la grâce envers nous en Jésus-Christ. Paul exprime ici que nous avons été sauvés par grâce et que la bonté de Dieu en Christ nous est révélé dans ce salut. Donc Dieu nous a sauvés, non pas à cause de nos œuvres, mais par sa bonté, sa miséricorde. Ce salut nous transforme et nous invite vraiment à refléter aussi cette même bonté envers les autres, envers celui qui est juste à côté de moi, celui qui est proche de moi. J'aimerais vous lire encore dans Tite 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Oui, Dieu nous renouvelle par sa bonté, par sa miséricorde. En retour, nous devons aussi manifester cette même bonté dans nos relations. Alors, si on regarde un petit peu le fruit de l'Esprit de Dieu, voilà, nous voyons que voilà, dans le fruit de l'Esprit de Dieu, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience et aussi la bonté. Nous apprenons aussi à travers Galates 5 que la bonté fait partie du fruit de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, à l'intérieur de nous-mêmes, s'il demeure en nous, il se peut que le fruit de l'Esprit se manifeste. Et si dans votre vie personnelle, nous voyons la bonté se manifester, ça veut dire aussi que ça prouve que l'Esprit de Dieu agit, demeure dans votre vie personnelle. C'est un signe de la présence de Dieu en nous. Dans Luc 6, 43, 45, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Voilà, si l'Esprit de Dieu habite en nous, cette bonté de Dieu doit être visible, visible dans notre vie. Parfois, si nous sommes égoïstes, indifférents, méchants, dans ce cas-là, oui, on ne pourra pas vraiment, cela veut dire aussi que nous sommes loin avec l'Esprit de Dieu, loin avec le Seigneur. Prenons vraiment aussi un instant même pour réfléchir, pour nous examiner si la bonté de Dieu est visible en moi en ce moment même. Est-ce que ma femme, ma famille, mes proches, ceux qui me côtoient assez régulièrement, est-ce qu'ils voient en moi cette bonté se manifester ou pas? C'est une question que je nous pose. Après, à votre avis, c'est quoi les contraires de bonté? Voilà, j'ai un peu donné un petit exemple de liste. Enfin, il fallait passer tout à l'heure. Hein. Il faut que peut-être en dehors de cela aussi, hein, il y a pas mal de choses qu'on pourrait encore nommer. Oui, le contraire de bonté, c'est la méchanceté. Hein. C'est vraiment la volonté de nuire les autres. On peut voir cela même. Oui, on peut être la méchanceté parce que nous ne reconnaissons pas aussi Dieu. Il y a aussi l'indifférence. Ne pas se soucier des autres, ne pas aider quand on le peut. Tout ça, l'indifférence est liée aussi souvent aussi avec l'égoïsme, parce qu'on pense seulement à soi et on ne pense pas forcément à partager. On se dit souvent, voilà, moi je préserve ma vie personnelle et puis voilà, ne touche pas ma vie et moi je ne te toucherai pas. C'est comme si je t'importune pas. Donc, ne m'importune pas non plus. Et en fait, c'est un comportement d'indifférence et d'égoïsme qui est là. Alors que peut-être que ceux qui disent ainsi se sentent, bah, moi, je ne suis pas aussi méchant que ça, quoi. Alors que dans cette pensée, il y a quand même profondément, il y a cette nature égoïste qui est présente. Dans Proverbe 11, verset 17, l'homme bon fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa propre chair. Ici, à travers cette parole, nous pouvons aussi voir que ceux qui font du mal, ils font aussi surtout du mal dans leur cœur aussi, à eux-mêmes aussi. Cette attitude, en tout cas, ces attitudes viennent d'un cœur éloigné de Dieu. Si nous voulons vraiment manifester la bonté, nous devons justement laisser Dieu transformer notre cœur. Et la bonté n'est pas une option, mais vraiment un vêtement que Dieu veut que nous portions. Elle est vraiment le reflet du caractère de Dieu et un fruit du Saint-Esprit. Donc elle doit être visible dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'aimer aussi. Et si nous manquons de bonté, ben nous devons justement nous approcher de Dieu pour qu'il nous transforme. Dans Matthieu 5, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Important que vraiment cette lumière que nous dégageons soit visible par tous et à travers aussi nos bonnes œuvres. Ce qui est super, c'est que les gens vont voir la gloire se manifester en nous. Et ainsi, ils vont glorifier, ils vont louer le Père. Ils vont peut-être aussi accepter le Seigneur à travers notre manière de faire, notre manière d'agir. Pour bien expliquer la bonté de Dieu, le meilleur exemple serait le bon Samaritain. C'est une histoire bien connue, c'est vrai. Mais c'est vraiment un modèle de bonté véritable. Donc là, on voit bien que c'est dans Luc 10. Souvent, Jésus parle à travers des paraboles pour apporter son enseignement. Et Jésus donc nous enseigne ici la véritable bonté qui ne se limite pas aux mots ou aux intentions. Souvent, on a beaucoup de bonnes intentions. Non, quand nous voyons des mendiants, on aimerait aussi leur donner quelque chose. On se dit, ah, demain je vais faire ça, demain je vais faire... On a des bonnes intentions, sauf qu'on ne les met pas en pratique. C'est ça. Et c'est ce que nous allons voir justement, comment nous devons nous comporter face à ceux qui souffrent autour de nous. Sommes-nous vraiment prêts aussi à manifester cette bonté authentique, parfois qui nous coûte, parfois qui nous coûte. Alors, c'est quoi le contexte de cette histoire? Un jour, un maître de la loi, donc un religieux qui connaît très bien la parole de Dieu, vient auprès de Jésus en lui disant « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup pour le salut et qui connaissait aussi très bien la parole. Et Jésus, donc, à cette question, lui demande, il cite ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » C'est un mélange de Deutéronome 6 et aussi de Lévitique 19 qu'il a fait un petit... oui, c'est un mélange. un petit mélange pour vraiment... lui transmettre la volonté de Dieu. L'homme, cherchant à justifier son comportement, pose donc une seconde question. Alors, oui, d'accord, il faut aimer notre Dieu, il faut aimer mon prochain, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus apporte cet exemple du bon Samaritain, l'histoire du bon Samaritain. Tout d'abord, c'est un homme qui apparaît dans Luc 10, verset 30. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. On ne sait pas qui il est vraiment, c'est un inconnu. Est-ce que c'était un païen, un juif? Probablement un juif, puisque souvent les gens qui habitaient autour de Jérusalem allaient à Jérusalem pour faire leur culte, leur sacrifice, et ensuite au retour. Et donc souvent, dans ces rues-là, il y avait beaucoup de brigands qui dépouillaient justement ces touristes, ces pèlerins justement, qui venaient faire leur culte. Et donc un homme... On ne sait pas exactement s'il était juif ou pas, mais probablement. Ils le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. La route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse. Comme je vous avais dit, il y avait beaucoup de voleurs. Et cet homme, après avoir peut-être fait son sacrifice au temple, il retourne chez lui et puis là, il est attaqué. Tous ses biens ont été volés. Et non seulement ils ont été volés, mais il a été roué de coups, laissant à demi-mort. Donc ça veut dire qu'il avait un besoin urgent de secours. En ce moment, il y a deux jours, avec mes filles, j'ai commencé à regarder une série coréenne sur Netflix. Sur Netflix, sur l'histoire des médecins. C'était intéressant parce que voilà, il y avait encore l'histoire des médecins. Plutôt c'était une série coréenne, donc ça m'avait un peu attiré. En plus, c'était dans les 5 premiers sur Netflix. Je me dis, ah, mais pourquoi il y a une série coréenne qui est. Voilà. On a regardé. Et là, les médecins doivent intervenir. Ce sont des urgentistes. Ça veut dire que quand il y a un accident grave, etc., il faut vraiment intervenir le plus tôt possible. Ça, on appelle ça golden time. Je ne sais pas comment on dit. Nous avons 5-6 médecins là. Comment on dit ça en français ? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ça ne se traduit pas, voilà. Golden time, ça ne se traduit pas. C'est l'état critique. Il faut vraiment intervenir le plus tôt possible. La première heure, oui, merci. La première heure critique, on pourrait dire comme ça, pour intervenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet homme, laissé à demi-mort, avait besoin de soins assez rapidement, dans les heures à venir. Et puis, enfin, des gens arrivent. Tout d'abord, un prêtre qui descend par ce même chemin. Il le vit et passe à outre. On doit se dire, mais pourquoi ? Pourquoi il passe comme ça ? Alors qu'un prêtre, c'est un religieux. C'est quelqu'un qui doit, il doit bien connaître la parole. Et on vient de lire dans Lévitique que, voilà, aime ton prochain comme toi-même. Il vient de croiser un prochain qui était en difficulté et, voilà, il passe en outre. Heureusement, il y a encore une autre personne qui arrive. C'est un Lévite, encore un religieux qui connaît bien la parole. Il arrive aussi à cet endroit et il le vit et passe à outre aussi. C'est comme si moi, le pasteur, qui doit montrer l'exemple, et puis dans la rue, je croise quelqu'un qui est en difficulté et je fais comme si je ne voyais rien. Alors, les gens ont essayé de réfléchir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, la question de pur et impur est très importante. Dieu a beaucoup mis en place plein de lois pour que voilà, les gens se préservent de l'impureté. Et dans cette loi rituelle, il était interdit de toucher aussi un cadavre, mais aussi une personne blessée, pouvant être considérée comme une source d'impureté. Donc, ça veut dire quoi ? Ces religieux, en allant, s'ils avaient touché, aidé ce brigand, enfin pas brigand, cet homme blessé, il devenait impur. Ainsi, s'il devait faire encore un service au temple, il ne pouvait pas parce qu'il est devenu impur. Mais est-ce que c'est excusable, ce genre de choses ? Est-ce que c'est excusable ? Vous savez que la religion, sans amour ni compassion, est vide de sens. Heureusement, il y a une troisième personne qui arrive. Voilà donc cette parabole, cette troisième personne que Jésus présente. C'est le bon samaritain et qui montre un amour authentique et coûteux. Dans Luc 10, il est dit, mais un samaritain qui est considéré comme un chien pour les Juifs, un samaritain qui voyageait, arriva près de lui et fut ému de compassion. On voit déjà l'état de son cœur en voyant la détresse de quelqu'un. Il est ému de compassion. J'espère que vous serez tous émus de compassion en voyant la détresse de votre prochain. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. Voilà donc un Samaritain, un étranger, méprisé par les Juifs, fait preuve d'une bonté extraordinaire. Il s'approche, il ne se gêne pas pour le toucher, pour entrer en contact avec, avec le souffrant. Et puis il le soigne, il verse de l'huile et du vin sur les plaies. C'est un petit peu comme des antiseptiques de l'époque, à l'époque. Et puis il porte le blessé sur la monture. Il doit sûrement aussi avoir fait les premiers soins. Il prend le fardeau de l'autre et il le remet chez un aubergiste pour que cet soin soit, voilà, continue en tout cas. Et il paie pour ses besoins. Il paie pour ses soins parce qu'il n'avait rien. Il s'engage même encore financièrement, personnellement, si ça prenait plus que ce qu'il avait donné. Donc on voit ici vraiment la bonté authentique qui coûte quelque chose, même pour ce Samaritain. C'est un très bon exemple. Et Jésus, après avoir raconté cette histoire, pose la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé dans les mains des brigands ? Je vous rappelle que celui qui a posé la question à Jésus, comment on peut pour avoir la vie éternelle, c'est aussi un religieux. Peut-être qu'il devait se sentir aussi coupable en entendant ce prêtre, ce lévite qui passe en outre. Peut-être qu'il s'est vu aussi dans son image, je ne sais pas. Mais il répond quand même correctement. C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répond le maître de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Va et fais de même. Il nous invite vraiment d'agir avec amour, avec compassion. Et il nous demande encore ce matin, va et fais de même. La bonté que nous pouvons exprimer, c'est ce vêtement qui s'appelle la bonté, c'est un choix quotidien qu'on doit faire. Parfois, nous allons être confrontés à des différentes situations. Parfois, vous aimeriez peut-être enlever ce vêtement de bonté pour peut-être ignorer parce que vous êtes pressé, comme ces lévites. Ou bien peut-être que vous persistez, vous avez, comme ce Samaritain, vous êtes ému de compassion en voyant la détresse de l'autre et que vous êtes prêt à faire, à vous donner, à vous sacrifier, jusqu'à vous coûter certaines choses. La vraie bonté se manifeste non pas juste en paroles, mais en action. En préparant cette prédication, je me sentais un peu coupable. Je me dis, ah ben, moi, je n'ai pas fait forcément en action. Là, je prêche ce matin en action, mais je n'ai pas fait forcément en action. Il y avait quelqu'un qui m'avait téléphoné, là, il y a peut-être 10 jours, en disant que, voilà, je suis de Guadeloupe, je viens à Nancy pour une petite opération. J'aimerais être visité par un pasteur, pour être accompagnée, pour, voilà, elle est toute seule, donc ce serait bien d'avoir quelqu'un, un frère, une sœur, pour... Puis j'ai dit, ok, moi j'y vais, voilà, j'ai tel ou tel jour disponible, même si j'avais pas mal de choses, je peux recaler, je peux recadrer, et puis je viendrai vous voir. Puis j'ai fait une prière avant son opération, pour que le Seigneur se manifeste en elle. J'ai fait beaucoup en paroles. Et puis le jour où je devais y aller, en fait, j'étais grippé. Ça pourrait être une excuse, mais je me suis dit, je ne vais pas aller dans une salle de réanimation pour aller la voir. Donc j'ai dit, écoutez, je vais... Et puis j'ai dû encore m'excuser. Et donc après, j'ai dû encore recontacter pour avoir si elle était disponible pour me recevoir. Alors, je lui ai dit, maintenant que je suis rétabli de nouveau, ça va cette semaine. Je peux venir te voir. Est-ce que tu es disponible? Après, je n'ai plus de nouvelles. Je pense qu'elle a dû repartir. Et ça m'a fait un peu mal parce que voilà, peut-être que si je me suis laissé plus, si j'avais donné une certaine priorité avant que je tombe malade et puis aller tout de suite après, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Combien de fois nous regrettons parfois de ce genre de cas? Je me suis dit un jour, ah oui, la personne est malade, j'irai là cette semaine. On a beaucoup de bonnes intentions. J'irai cette semaine la voir et puis je n'ai pas été parce que j'avais aussi des excuses. On a toujours des raisons. Et puis finalement, la semaine d'après, j'apprends que cette personne est décédée. Je me dis, ah mince. Combien de fois? Plusieurs fois m'est arrivé ce genre de choses. On a des bonnes intentions, mais est-ce que vraiment nous agissons dans la vie réelle, quotidienne? C'est ça, en fait, qu'il faudrait réfléchir. Jacques 2, 16, il est dit, si l'un de vous dit à son frère, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, et que vous ne lui donniez pas de quoi subvenir à ses besoins, à quoi cela sert-il? On peut faire plein de choses en parole, même en prière. Mais est-ce que nous pouvons vraiment... je ne dis pas que la prière n'est pas importante. Il faut faire la prière, il faut intercéder. Ça, c'est vraiment Dieu écoute aussi et fait bouger les choses à travers aussi notre intercession. Mais il faut aussi encore aller plus loin, comme ce Samaritain qui s'est donné corps et âme pour cette personne. Un certain Chris Anderson, il est donc il n'est pas le fondateur, mais en tout cas il a acheté le TED, c'est une fondation qui fait pas mal d'études. Un jour il a reçu 200 000 euros pour qu'il puisse faire des études sur pour obtenir des niveaux de bonheur, etc., etc., pour étudier ce genre de niveau de bonheur. Donc ça, c'est il y a peut-être 2 ans, en 2022. Et il a choisi 200 personnes et il a décidé de donner à chacun 10 000 dollars. C'est pas mal. En leur disant, vous pouvez les utiliser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et par contre, il faudrait les dépenser en moins de 3 mois. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Ce matin, là, on est une bonne centaine. Si on vous avait donné à chacun, chaque famille, 10 000 euros, un peu moins de 10 000 euros, vous avez encore des idées, hein? Là, en ce moment, vous êtes en train de réfléchir. Ah oui, peut-être que... Oh, j'ai des dettes, alors je pourrais peut-être rembourser certaines dettes, etc., etc. Donc, toutes ces dépenses ont été analysées, etc., après 3 mois. À votre avis, comment ils ont dépensé leur argent? Rien que l'idée, ça vous donne beaucoup de joie, non? D'avoir quelque chose gratuitement, près de 10 000 euros, quand même. C'est beaucoup même. Et il faut dépenser en moins de 3 mois. Et apparemment, ils ont fait la probabilité, c'est à peu près un tiers qu'ils ont utilisé seulement pour eux-mêmes, si on fait la probabilité. Les 2 tiers, ils ont utilisé pour les autres, pour les faire des cadeaux, pour aider les autres. Le résultat, en tout cas, illustrait bien que dépenser de l'argent pour les autres, acheter des expériences permettant ça permettait en tout cas d'obtenir des niveaux de bonheur plus élevés que les autres. Matthieu 10, 8, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous avons reçu cette bonté de Dieu qui n'a pas de prix, qui est tellement immense. Il nous a donné la vie, il nous a donné tellement de choses. Et maintenant, le Seigneur nous dit aussi, vous avez reçu la bonté, mon caractère. Vous devriez aussi, maintenant aussi, répandre cette bonté verticalement, non, horizontalement, à votre prochain, comme le bon samaritain. Oui, plus nous réalisons combien nous avons reçu de Dieu, plus nous devenons généreux et bienveillants envers les autres. Que nous puissions vraiment comprendre, se rendre compte, ce privilège. Et que nous puissions vraiment aussi mettre en pratique. J'aimerais vous lire dans Colossiens 3, 13, qui est juste après le verset en question, lorsque nous parlons un petit peu les cinq caractères, après avoir énuméré les cinq caractères, dans Colossiens 3, 13, il est dit « Supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un de vous, enfin l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La vraie bonté se manifeste dans nos relations. Dans nos relations. Ça peut aller encore plus loin. Se manifester la bonté, c'est aussi dans nos relations ce qui se manifeste. Elle crée des liens justes et sincères avec les autres. Et là, dans Colossiens verset 13, 3 verset 13, dit « Supportez-vous les uns les autres. » Ça veut dire qu'après avoir reçu la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, nous arrivons même à supporter les uns les autres. Et puis si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, on peut pardonner. On peut pardonner et il peut nous pardonner. Le pardon réciproque peut être réalisé. Il peut y avoir des miracles de réconciliation. Donc de même en tout cas, enfin bref, le pardon devient en tout cas possible lorsque nous sommes revêtus de bonté. Dans Luc 6, 36, il est dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La miséricorde et la bonté vont ensemble et elles nous rendent plus compatissants et plus généreux. Moi, je vais conclure. Voilà, donc Dieu est la source de toute bonté. On a vu tout à l'heure combien Dieu était généreux, combien il était présent à nous offrir cette immensité de privilèges, cette grâce, cette miséricorde. Et puis cette bonté, ça fait partie de l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Ça permet aussi de faire on voit vraiment à travers la bonté, on voit la visibilité de la présence de Dieu dans le quotidien, dans notre vie. Que j'espère vraiment que nous puissions chacun porter beaucoup de fruits de l'Esprit, surtout en bonté de Dieu, pour que le Seigneur, mais aussi les autres, puissent voir son œuvre. Et puis, agissons comme le bon samaritain, non pas comme des religieux qui se sont détournés en voyant le malheur des autres, mais agissons comme le bon samaritain. Et puis, la bonté transforme nos relations, oui. Il y a des conséquences de cette bonté qui est là. Ce n'est pas juste que nous recevons une bonté de Dieu, mais aussi cette bonté doit être transmise dans nos relations, dans ma vie personnelle. Et puis, j'ai rajouté encore ce petit point, ne pas limiter la bonté de Dieu. Parfois, on n'ose pas des choses à Dieu. Vous avez compris ? Non ? Non. Comment expliquer ça ? Alors que Dieu nous demande, ouvre grand ta bouche. Et là, on se dit, non, on limite la puissance de Dieu. Ah non, on va gêner. Non, ça me suffit. Non, tu n'es pas obligé de m'accorder ceci, cela. Alors que le Seigneur est présent, il veut bien nous bénir, nous offrir plein de choses. Et nous le limitons dans sa puissance. Que nous puissions vraiment se rendre compte, nous rendre compte de cette puissance immense et aussi cette bonté de Dieu incommensurable. Ouais. Oui, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Que le Seigneur nous bénisse et que, voilà, que nous puissions vraiment porter ce vêtement de bonté quotidiennement durant cette semaine. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que alors que nous n'avons rien mérité, tu nous as tout donné. Et à travers encore ce deuxième point de bonté, nous aimerions encore voilà, te ressembler davantage. Ce caractère de bonté que tu nous as montré et aussi que tu nous as enseigné, aide-nous aussi à le porter quotidiennement pour voilà, être un bon disciple. Seigneur, que nous puissions être bons comme tu l'as été. Et que notre vie soit aussi un témoignage vivant de ta bonté, Seigneur. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.